Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
J'imagine beaucoup le premier jour de la rentrée. Peut-être qu'elle reste dans son coin, qu'elle regarde et qu'elle n'ose pas s'affirmer, en fait. Ce qu'elle fait très bien avec nous, pourtant.
Comme si, en fait, on coupait un autre cordon. Et pour les mamans, les papas, c'est quelque chose de très dur.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Estelle ?
Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est donc la thématique de la rentrée scolaire, puisque ma petite va rentrer à l'école cette année. Enfin, oui, cette année, septembre 2022. Voilà, elle aura tout juste 3 ans, donc ça va être aussi ma première rentrée scolaire en tant que maman. Et voilà, je pense que mes questions me concernent davantage moi, puisque j'essaye quand même de partir du principe que je lui fais confiance et donc que ça va bien se passer, voilà. Dans ma tête, en fait, je le vois plutôt comme une succession d'étapes, surtout ces 3 premières années qui sont assez intenses avec l'accouchement, le premier mode de garde où voilà, c'est un autre lien qui se crée, et puis l'entrée à l'école. Donc là, pour moi, c'est...
Quel est le mode de garde de votre fille ?
En assistante maternelle.
Elle est avec d'autres enfants ?
Elle est avec, oui, un autre enfant. Ça se passe très bien. En plus, avec le Covid, il y a eu très peu d'interlocuteurs, au final, d'intervenants autour d'elle, depuis le début de sa vie, en fait. Ce qui me questionne, ben, c'est aussi parce qu'on a un contexte particulier, puisqu'elle va aller, en plus, dans l'école de son papa. Donc voilà, c'est... pas mal de questions qu'on se pose, même encore maintenant. Voilà, si on a pris la bonne décision, si on a fait le bon choix. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle va s'adapter, mais nous, voilà, comment, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer pour lui expliquer au mieux et lui faire confiance, quoi.
Quel est le métier de votre conjoint ?
Directeur d'école maternelle.
Est-ce qu'il est instituteur aussi ?
Oui.
Est-ce qu'elle sera amenée peut-être à être dans sa classe ?
Oui, en grande section. Du coup.
D'accord. Pas pour l'année prochaine.
Pas pour l'année prochaine.
Ouf. Et du coup, par rapport à ça, voilà, quelles sont vos inquiétudes ou vos questions, voilà, le fait que son père, en tout cas, qu'elle va être amenée à le croiser, à le voir à l'école ?
Alors, il y a des questions sur est-ce qu'elle va différencier voilà, le papa et le maître d'école, directeur d'école ? Est-ce qu'elle va pouvoir... j'ai envie de dire comment ils vont réussir aussi tous les deux en fait à s'adapter à cette situation à l'école et à la maison, enfin voilà, 2 cadres différents. Donc lui aussi appréhende un petit peu ces situations là après voilà, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Ce qui nous interroge aussi, c'est le nouvel équilibre à trouver puisque c'est quand même un gros chamboulement pour elle, voilà, l'entrée à l'école en général. Voilà, il y a le nouvel équilibre, il y a le sommeil, comment va se passer le sommeil. Voilà, c'est les questions.
Qu'est-ce que vous imaginez par rapport au sommeil ?
Sommeil un peu perturbé. On l'envisage, on va dire. Donc, voilà.
Que l'entrée à l'école perturbe son sommeil ?
Ouais, on se pose, on s'y prépare, quoi. Elle a mis un petit peu de temps à faire ses nuits, et puis à chaque étape, on va dire, de son développement, il y a des petites... c'est normal, mais
C'est pas toujours simple à vivre.
Voilà. Et puis après, il y a le côté, socialisation...
Par exemple, vous craignez qu'elle n'arrive pas à créer du lien avec les autres enfants, à jouer avec eux ?
Si on ne vient pas la chercher, en fait. Donc, peut-être qu'elle reste dans son coin, qu'elle regarde et qu'elle n'ose pas s'affirmer, en fait. Ce qu'elle fait très bien avec nous, pourtant.
Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait émotionnellement de savoir que votre fille va rentrer à l'école ?
J'imagine beaucoup le premier jour de la rentrée avec, pour le coup, quand c'était l'entrée, les premiers jours de Nounou, c'est moi qui l'amenais, c'est moi qui la déposais, donc c'était moi l'actrice en fait. Donc je garde l'image de c'est moi qui la dépose. J'ai pris cette décision. L'école obligatoire. C'est elle qui va partir. Logiquement, donc c'est toute une image. Je pense que ça va être le premier jour, ça va être une sacrée mini tempête émotionnelle, je pense.
Cette séparation, elle vous inquiète ?
J'ai dans la tête que c'est la première fois que je lui lâche vraiment la main, quoi. Enfin, elle commence son chemin, en fait.
C'est un saut dans l'inconnu pour vous aussi.
Oui, surtout pour moi, je pense, parce que je me fais. J'ai vraiment confiance en elle et je suis certaine que ça va bien se passer. Mais il y a toujours cette petite appréhension qu'elle ressente mon inquiétude. Et puis l'école, la maternelle, on sait à peu près que on imagine toujours un peu à quel niveau d'indépendance ils vont avoir. Mais c'est quand même l'entrée vers après. Il reste des années, mais n'empêche que moi, je pense toujours à l'adolescence. Enfin, ça m'emmène un peu plus loin que juste l'entrée en maternelle, en fait.
Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous allez faire, en tout cas comment vous allez préparer ce jour J de la rentrée ?
Bon, on lui en parle déjà, parce qu'elle elle connaît l'école, donc on lui dit, tu iras à l'école, il y aura une maîtresse, donc on la nomme, la maîtresse. Elle l'a déjà rencontrée, elle la connaît, on ne la croise pas souvent, mais elle l'a déjà rencontrée. Il y aura d'autres enfants. Tous les matins, quand on va chez la nounou, on voit les enfants aussi aller à l'école. Donc je lui explique. Elle a bien intégré que les enfants vont à l'école le matin, qu'elle va chez la nounou. Donc après, il y a les livres aussi. Là, le tchoupi qui va à l'école, on y est.
Elle le réclame ?
Oui.
Vous avez l'impression qu'elle est demandeuse, qu'elle a envie d'y aller ?
Oui, je pense que... de temps en temps, je lui pose la question. Est-ce que, tu aurais envie d'aller à l'école avec les autres enfants, les copains, les copines Après, elle me regarde quand même avec avec un œil curieux, parce qu'en fait, elle ne sait pas trop en quoi ça consiste, aller à l'école, mais le fait de voir plusieurs d'autres enfants, tout ça, ça l'intéresse, ça suscite sa curiosité.
Vous avez d'autres questions ou d'autres inquiétudes par rapport à ce passage ?
Oui, la propreté. Grande question. Je ne m'inquiète pas plus que ça parce que, elle y va, elle va sur le pot, après elle s'en détourne. Je pars du principe que c'est naturel, donc que ça arrivera.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être source d'inquiétudes ou de questions ?
Je pense que j'ai fait le tour.
Ce que je vous propose maintenant, Estelle, c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté nos expertes, Nathalie et Fanny. Bonjour Nathalie, vous êtes institutrice en maternelle. Bonjour Fanny, vous êtes institutrice en école élémentaire.
Bonjour.
Du fait de votre droit de réserve à toutes les deux, c'est la raison pour laquelle nous ne donnerons pas vos noms de famille. Pour de nombreux parents, la rentrée scolaire rime avec interrogation, inquiétude et parfois angoisse. Voir son enfant franchir le seuil de l'école pour la première fois est une sacrée étape tant pour l'enfant que pour ses parents. Étape qu'il faut ensuite renouveler chaque année. Comment accompagner son enfant de la maternelle à l'école élémentaire? Comment le préparer, mais aussi se préparer en tant que parent? Quelle relation entre l'école et les parents? Quelles clés pour favoriser une scolarité sereine à ses enfants? Autant de questions que nous allons explorer ensemble avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, Nathalie, Fanny, quels sont les enjeux? Alors, peut-être d'abord vous, Nathalie, les enjeux de l'entrée à l'école maternelle.
Alors, bon, tout d'abord, moi, je pense que vous en avez très, très bien parlé. Vous vous posez les bonnes questions. Et ça, c'est très bien. C'est vrai que c'est, encore une fois, pour moi, c'est comme si, en fait, on coupait un autre cordon. Et pour les mamans, les papas, c'est quelque chose de très dur, d'assez violent même. Donc, presque, je dirais, je dois plus rassurer les parents que les enfants. Mmh. Voilà. Parce que l'enfant, lui, il a envie. Il a vraiment envie de venir. Il a vraiment besoin. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Parce que souvent, les parents s'imaginent que l'enfant ne veut pas venir à l'école parce qu'il le dit. Mais en fait, il dit « je ne veux pas te quitter ». Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est très difficile de quitter sa maman et son papa pour aller vers un autre monde. Après passer les quelques jours où l'enfant se pose la question « est-ce qu'on va venir me chercher ?» C'est pas le temps où je reste qui est compliqué, c'est qu'il n'a pas de repère sur qui va venir me reprendre de cet endroit. Et au bout de 2-3 jours, il a compris qu'il ne restait pas dormir à l'école, parce qu'il y a toujours ces histoires de sieste aussi qui sont compliquées pour lui, dormir ailleurs. Vous en avez très bien parlé, le sommeil, c'est sûr que c'est aussi quelque chose à gérer. Donc, une fois qu'il a compris qu'il va rentrer chez lui, il va se détendre et ça va bien se passer. Et pour la propreté, effectivement, c'est en amont que ça se passe. Il faut quand même travailler ça à la maison avec les parents parce que être propre à l'école, franchement, pour eux, c'est mieux. C'est pas tellement pour l'école, mais pour eux, c'est mieux. Ils n'ont pas du tout envie de cette promiscuité. Vous savez, l'école, c'est beaucoup d'enfants, peu d'adultes. Donc, ça suppose vraiment que la propreté soit acquise pour tout le monde. Et je crois en priorité pour lui.
Est-ce qu'il y a une obligation quant au fait d'avoir acquis la continence?
Alors, il n'y a pas d'obligation. Bien sûr que tout individu est différent. Il y a des enfants pour qui c'est plus facile que d'autres. Il y a des enfants, les mamans vont arriver en me disant « il n'est pas propre du tout et je vais avoir zéro accident ». D'autres mamans qui vont me dire « il est complètement propre et ça ne va pas du tout le faire ». Vous voyez, en fait, c'est comment vous voyez-vous votre enfant, quelle angoisse vous avez par rapport à ça aussi. Parce qu'il y a des mamans qui se disent « il ne va pas y arriver, il ne va pas oser demander », alors que lui, il gère très bien. Donc, en fait, il faut absolument les préparer, leur en parler, leur dire aussi que, leur montrer les toilettes, parce qu'il y a des enfants, les toilettes avec la promiscuité, c'est compliqué. Déjà, même à 3 ans, pas beaucoup, mais il y en a quand même.
Pour quelle raison, d'ailleurs, il y a cette ouverture des toilettes? Pourquoi en maternelle, il y a cette promiscuité et puis finalement pas vraiment d'intimité dans les toilettes des enfants?
Alors, moi, je veux vous dire tout de suite pourquoi, c'est pour la surveillance. Parce qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous savez comment c'est, ils font un petit peu les fous. Et si on les d'abord, pour le danger que ça pourrait représenter de s'enfermer, de fermer une porte, de se coincer les doigts, ils ne sont pas encore assez autonomes là-dessus. Donc vraiment, par contre, on a des petites séparations quand même. Il y a une petite intimité. Mais pour certains enfants, c'est compliqué aussi, déjà, et il faut respecter ça. Donc je crois que de toute façon, la propreté, elle est vraiment nécessaire. Et c'est pas une obligation, mais c'est, je dirais, une nécessité d'abord pour lui. Pour elle.
Il n'est pas nécessaire ou à 100% d'être propre, mais par contre, les couches ne sont pas autorisées à l'école. Donc ça veut dire qu'il n'est pas possible d'emmener son enfant en couche, voire de le faire changer à l'heure de la sieste ou d'en mettre une à l'heure de la sieste. Donc ça peut être compliqué.
Pourtant, il y a certaines écoles où c'est possible.
Et je pense c'est certaines écoles, c'est une question de praticité et non pas de légalité. La légalité, les agents ATSEM de l'école et donc les agents de la ville qui sont là pour l'hygiène et la propreté des enfants ne sont pas tenus dans leur fiche de poste de changer les enfants. Donc après, si dans l'école, effectivement, il y a un accord, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'une école qui ne veut pas accepter un enfant avec une couche n'est pas dans l'obligation de le faire.
Oui, parce qu'il y a souvent quand même ce spectre pour les parents. Si mon enfant n'est pas propre, on va me le refuser ou on va me le renvoyer à la maison. Est-ce que ça, c'est un peu des légendes urbaines. Est-ce que ça arrive?
Alors, déjà, c'est toujours du cas par cas. On ne fait jamais de généralité. Et ce qu'il faut faire, c'est, si on a vraiment l'impression qu'il y a un problème, déjà, il faut en parler avec la maîtresse. C'est dans l'échange qu'on va résoudre le problème. Moi, je vais vous dire très, très rapidement, les enfants deviennent propres dans ma classe en quelques jours parce que je leur explique, parce que voilà, il y a une relation de confiance qui s'établit. En fait, il faut pas mentir, faut pas dire non, ça n'arrive jamais, il n'y a pas d'accident à la maison. Ça, c'est faut pas mentir, faut dire la vérité. J'aime mieux quelqu'un qui arrive et qui me dit ben, j'ai pas réussi encore à le rendre propre, parce que dans ce cas-là, je dis ok, on va s'en occuper tous ensemble. Voilà, c'est pas la peine de culpabiliser, au contraire, il faut arriver. Et on échange, tout est échange. Au début, c'est vraiment quelque chose qui doit être perméable. La relation avec l'enseignant, les parents et l'enfant. Tout doit être perméable. Et l'enfant, il le voit aussi, qu'on échange. Ça compte beaucoup.
Estelle nous disait donc que sa fille, aujourd'hui, est gardée chez une assistante maternelle. Est-ce que le mode de garde détermine ou a un impact sur l'adaptation lors de l'entrée à l'école?
Alors, oui. Et évidemment, vous allez penser que les enfants de crèche sont plus préparés à l'école. Et moi, je vous dis non. Parce que, en fait, l'enfant qui est gardé en assistante maternelle, il a vraiment besoin de la collectivité et qu'elle arrive. Alors que l'enfant qui est déjà en collectivité peut en avoir un petit peu marre déjà. Voilà. Donc souvent, ou même les enfants gardés par leurs parents, parce que les parents ont pu les garder jusqu'à 3 ans, ils ont pris un temps, une pause dans leur carrière, ou pas, ces enfants-là, ils trépignent. Et aux grandes dames des parents qui sont désespérés de les voir courir vers la classe. Donc voilà, ça c'est des idées reçues qui sont pas vraiment justement... on dit toujours la crèche, ça prépare beaucoup les enfants. Bah, oui, certains, mais pas tous. Ils sont tellement différents, tellement tous des entités à part entière. On peut pas généraliser en petites sections les choses. Après. C'est compliqué.
Alors justement, chaque enfant est différent et en même temps à l'entrée à l'école, c'est autant à la crèche et l'assistante maternelle, les adultes vont d'une certaine manière s'adapter au rythme de l'enfant. Là, l'enfant va devoir s'adapter au rythme de l'institution. Donc il y a voilà, un changement de paradigme. Voilà, comment ça se fait?
Alors, en tout cas, moi, ma façon de travailler, c'est de fédérer le groupe, justement. Parce que quand on arrive à l'école maternelle, on est une personne avec son espace autour et on partage pas, tout est à soi en fait. C'est moi, mon papa, ma maman et mes jouets, si vous voulez. Alors que en fait, il faut arriver à fédérer le groupe, à faire en sorte qu'ils se connaissent tous très vite. Par exemple, ce qui est très important, moi, c'est un exemple, mais on doit connaître le prénom de tout le monde très vite. Donc je vais travailler dans ce sens-là. Et ça aide beaucoup à ce que les enfants échangent, même si au début, c'est quand même... Vous avez parlé de petite fille qui est... Vous pensez, elle va peut-être pas échanger. Mais ne vous inquiétez pas, elle va en tout cas écouter. Et même si elle échange pas tout de suite, eh ben, il faut lui laisser le temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas si elle a besoin de quelques mois pour échanger? C'est pas grave, ça. Elle va échanger. Et elle a besoin de ce temps d'observation, il faut lui laisser, il faut leur laisser le temps. Les enfants en prennent pour 20 ans minimum, alors en petite section, on laisse le temps. Voilà.
La petite section, c'est l'apprentissage aussi, alors pour l'enfant d'être un élève, pour le parent d'être un parent d'élève. Il y a quand même l'enjeu que l'enfant... aime l'école. Il y a souvent cette inquiétude pour les parents que l'enfant n'aime pas, disent qu'il n'a pas envie d'y retourner, pleure, manifeste beaucoup de rejet ou lui-même d'inquiétude par rapport à l'école.
Oui, évidemment. Alors souvent, ça vient de sa propre histoire. Est-ce que nous, on a aimé l'école? Oui ou non? Et je me souviens très bien d'un papa qui arrivait un jour en me faisant un reproche, comme quoi on avait forcé son enfant à manger à la cantine. Bon, peu importe. Ça, c'est le genre de petit reproche. Bon, évidemment, c'était pas vrai. Et il me dit, mais vous savez, moi, je comprends qu'elle ait du mal à aimer l'école, parce que pour moi, ça a été l'enfer, l'école. Voilà. Alors, tout était dit, en fait. Son enfant n'avait pas du tout de problème à l'école. C'était une petite fille qui était complètement épanouie. Mais lui, il avait souffert à l'école. Donc, il projette. Et il y a beaucoup de parents qui ont souffert dans leur scolarité, qui vont projeter. Mmh. Voilà. Mais, bon, écoutez, il y a parfois des enfants qui peuvent ne pas aimer l'école. Franchement, moi, c'est vraiment... J'en connais pas, quoi. Je connais pas.
C'est pas ne pas aimer l'école, en plus. C'est avoir peur de l'inconnu. Ils arrivent, ils savent pas trop à quelle sauce ils vont manger.
Quelques jours.
Mais ça dure vraiment pas très longtemps. Et puis, ils sont nourris d'activités diverses et variées, à un rythme quand même assez soutenu. Et du coup, ils ont pas le temps de s'ennuyer, et donc pas le temps de réfléchir, et donc pas le temps de ne pas aimer.
Et la dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est l'enfant qui ne raconte pas ce qu'il fait. Ah, ça, c'est tout le temps que j'ai ça. Vous savez, Nathalie, il me raconte pas, il me dit qu'il fait rien. Il me dit, j'ai rien fait. Alors, ça aussi, c'est très drôle parce qu'en fait, évidemment qu'il fait plein de choses. Mais en fait, là, il vous dit, en gros, tu m'as mis à l'école, c'est mon jardin secret. Ça me regarde, moi. J'ai pas envie de partager. Alors, moi, j'ai des ruses pour qu'il soit contraint de partager. Mais ça arrive souvent, ça. Ils n'ont pas envie de partager. Voilà, c'est un petit peu un règlement de compte. Ah, tu me quittes. Mais tu vas voir, ce soir, je ne te raconterai pas ce que j'ai fait toute la journée.
Et puis c'est leur monde, et puis c'est le premier pas vers l'autonomie aussi. C'est... Voilà. Le but du jeu, c'est d'être capable de se débrouiller seul. Donc,
pour les parents, d'ailleurs, ça, le fait de que ça soit chez l'assistante maternelle ou à la crèche, les parents ont beaucoup d'informations, savent exactement ce qu'a fait, ce qu'a mangé, la quantité qu'a mangé son enfant. Et il y a cette inquiétude, justement, de ne pas savoir. C'est une inquiétude que vous avez, Estelle ?
Oui, parce que des fois, on peut mettre une heure et demie à table. Et du coup, je me dis, mais à la cantine, elle aura à peine mangé deux bouchées que ça y est, on va débarrasser, qu'elle aura rien mangé. Donc oui, c'est vrai qu'en y repensant...
Donc l'inquiétude par rapport à la gestion des repas, voilà, comme pour le sommeil, est-ce que ça peut venir bouleverser et modifier? Et puis le fait d'avoir moins d'informations, voilà, c'est vrai que c'est ça, devenir parent d'élève, c'est accepter de moins savoir.
Alors, moins d'informations, c'est pas tout à fait vrai, si je peux me permettre. C'est des informations qui concernent la pédagogie. On est là pour les apprentissages. Et c'est vrai qu'on va, on va pas forcément donner tous les détails de ce qu'il a mangé. D'abord, il ne mange pas avec moi. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, et ce que je dis toujours en réunion, c'est que si ça va pas, je vais venir vers vous. Si tout va bien, je ne dirai rien. Voilà. D'accord ? C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça que j'essaye d'être le plus efficace. Mais moi, c'est vrai que je suis là pour le savoir, leur laisser des petites empreintes dans leur cerveau. Et j'ai un programme à suivre qui est peut-être pas le même qu'en école élémentaire, mais quand même qui est conséquent. Et je suis là pour ça. Je suis une enseignante avant tout.
Estelle nous parlait du sommeil. Là, on a évoqué la question de la cantine. Voilà, ça, c'est pas justement des choses que vous gérez, puisque ce sont des temps où ce sont les ATSEM qui gèrent ces temps-là.
Ou les animateurs de la ville de Paris.
D'accord. Du coup, comment ils sont organisés, ces temps? Alors, vous allez me dire, ça va dépendre d'une école à une autre, mais comment on pourrait rassurer les parents qui pourraient avoir des questions ou là, par rapport à l'inquiétude d'Estelle, voilà, que son enfant ne mange rien, ou n'ait pas le temps de manger ou...
Oui. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a évidemment un partenariat avec les animateurs et les enseignants. Je ne vais pas laisser les élèves comme ça, avec l'animatrice, comme ça, en quelques secondes. Je vais au départ les accompagner, moi, à la cantine, donc en fait les rassurer, parce qu'en fait, ce qui justement les effraie au départ, c'est le changement de personne. Donc le changement de personne, il est très bien géré. Après, vous savez, manger avec ses copains, c'est la fête. C'est ça, c'est la fête. Ils sont très contents, en fait. Alors, évidemment, ils n'aiment pas le bruit. Des fois, ils n'aiment pas ce qu'on leur propose parce que ce n'est pas pareil qu'à la maison. Mais En règle générale, à part, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne mangent pas, hein, ça c'est vrai. Ça existe, il y a toujours un ou deux enfants dans une classe qui mangent très peu, mais en règle générale, ils dévorent. Voilà. Mmh. Ils adorent manger. Voilà. Oui. C'est pas un problème. Vraiment, c'est pas ça. Vraiment, le problème, c'est plus la séparation. Hein, c'est ça le vrai problème. Et plus vous allez vous être rassurée, plus vous allez être forte, et plus votre enfant va passer une rentrée en douceur.
Comment, du coup, justement, le parent peut se rassurer par rapport à cette séparation, travailler un peu en amont pour le jour J, malgré l'émotion, voilà,
ça être sera le plus quand serein possible. C'est difficile le jour J parce que comme, je pense que c'est difficile de laisser son enfant à quelqu'un d'autre toute la journée. C'est difficile. Donc, moi, ce que je fais, en tout cas, c'est vrai que je parle beaucoup aux parents le premier jour et je passe du temps à ça, des fois au détriment des enfants, ce qui, des fois, me chiffonne un peu, mais je suis obligée parce que, franchement, les plus inquiets sont eux, pas les enfants.
Mais du coup, en amont, comment le parent, est-ce que, je ne sais pas, de réfléchir justement à cette... Alors déjà, de savoir que ça va être dur, que c'est un passage, et puis que finalement, l'enfant va s'adapter et que ça va bien se passer. Bon, déjà, c'est rassurant, mais voilà, est-ce que, voilà, y a des petites choses que le parent peut faire pour,
déjà, travailler en parler, cette séparation ? En parler beaucoup. Je crois que les écoles organisent des visites. Ça, il faut le faire. Et puis, en parler pendant l'été avec votre enfant. Échanger avec lui. Vous préparer aussi à ça. Mmh. Et peut-être lire des livres. Effectivement, ça peut aider. Mais de toute façon, au niveau, ce que vous avez, au niveau de l'émotion, elle sera là. Mmh. Mais si vous vous êtes bien préparé, si vous en avez bien parlé, si vous sentez que votre enfant, il est prêt, ça va vous aider. Et puis, il faut faire confiance aux enseignants. Mais vraiment, c'est très important. Vous vous rendez compte, vous laissez votre enfant toute la journée à cette personne, il faut lui faire confiance.
Mais ça, quand on ne se connaît pas, ce n'est pas forcément simple.
Eh oui, c'est très compliqué. Je suis complètement d'accord. Mais là-dessus, je n'ai pas vraiment de solution miracle. Il faut faire confiance. Voilà. Mmh. Et dès que ça ne va pas, il faut venir échanger. Dès qu'il y a un petit doute, quelque chose qui vous chiffonne, vous venez juste échanger quelques mots. Voilà, ça c'est important. Faut pas laisser des choses dans... parce que souvent on se fait des idées qui sont complètement fausses.
Et c'est valable à l'élémentaire également, voilà. Hein, jusqu'à
moi j'ai des tas d'exemples. On n'a pas le temps là de, mais vraiment il faut échanger avec l'enseignant. On va l'agresser parce que c'est difficile pour lui. Il a 25 petites têtes différentes. Il essaye de faire en sorte de s'occuper de tout le monde. Mais il faut aller voir l'enseignant. Et aussi, c'est lui qui va vous rassurer. C'est lui qui va vous aider. C'est sûr. En petite section, beaucoup de travail. Le travail énorme avec les parents. Énorme.
À partir de l'élémentaire, alors il y a cette rentrée au CP, là aussi il y a à nouveau des enjeux. Alors on n'est plus dans la séparation puisque l'enfant connaît déjà l'école, même s'il y a quand même un changement souvent d'école à ce moment-là. Quels vont être les enjeux autour de l'entrée au CP ?
Les enjeux autour de l'entrée au CP sont quasiment les mêmes avec 3 ans de plus que ceux de la petite section. C'est-à-dire que souvent, effectivement, c'est dans un lieu différent. La maternelle et l'élémentaire ne sont pas dans les mêmes locaux. Même dans le cas des écoles polyvalentes, c'est deux parties du local différentes. Et puis, exactement les mêmes choses, faire confiance et lâcher son enfant dans un nouveau monde avec la pression de l'apprentissage de la lecture. Je suis déjà à l'anglais, mais ils en font à partir du CP, évidemment. Mais de l'apprentissage de la lecture. Et ça, c'est une grosse pression que les parents se mettent parce que l'apprentissage de la lecture, c'est la clé du reste, c'est la clé de la suite. Et ils se disent qu'il faut absolument que les enfants sachent lire dès la fin du CP. Alors que dans les faits, ils ont réellement 3 ans, CP, CE1, CE2, pour apprendre à lire efficacement et de manière fluide et de comprendre surtout, parce que la lecture, c'est comprendre. Mais les enjeux sont les mêmes quasiment en petite section qu'en CP. C'est un nouveau monde, une nouvelle inconnue, avec l'ajout du fait que les parents ont un peu l'impression d'avoir un nouveau moment de lâcher prise plus important qu'en petite section. Ce qui s'explique aussi par l'âge des enfants. Quand ils ont 6 ans, ils sont un peu plus autonomes. Ils ont l'expérience de leur maternelle de 3 ans. Donc, ils sont évidemment plus grands. Mais ça reste un cap pour les enfants d'entrer en CP.
Oui, et puis je disais, il n'y a pas de séparation. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en maternelle, les parents rentrent quand même dans l'école. Alors qu'en élémentaire, les parents ne rentrent plus du tout dans l'école.
Oui. Alors, plus ou moins du fait de ces dernières années où les parents n'avaient plus forcément l'autorisation de rentrer dans l'école. Mais là aussi, je pense que c'est un vrai... ce sont quand même beaucoup de croyances, puisque même si, effectivement, les enfants sont lâchés à la porte de l'école, le fait qu'un parent puisse entrer dans l'école de manière organisée, ça se fait toujours par organisation différente, par rendez-vous, par le fait de discuter avec l'enseignant à la porte le matin ou avec le directeur ou la directrice. En tout cas, c'est possible. Le téléphone, le mail, la communication entre les deux mondes se fait encore très, 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 très régulièrement. Mais c'est vraiment, une fois de plus, croyance de « on ne peut plus rentrer dans l'école ». Bien que pour ces dernières années, j'aplanis un peu la chose, puisque de par tout ce qu'on a vécu, les parents ne pouvaient plus tellement rentrer dans les écoles maternelles. Mais c'est compliqué pour les parents.
L'entrée à l'école élémentaire, c'est aussi le début des devoirs. Alors ça, c'est souvent une grande question pour les parents.
Oui, c'est les devoirs. Alors, rien qui ne soit infaisable et rien qui ne soit extraordinaire. En général, ça se résume à une relecture de ce qui a été fait dans la journée. Ça se résume à 10 minutes, un quart d'heure maximum. Mais c'est aussi pour le parent un moyen de partager un moment, de relier le moment d'école et le moment de maison. C'est le fil directeur qui fait le lien entre les deux mondes. Donc c'est un moment très important pour les enfants parce qu'ils montrent ce qu'ils font à l'école, pour les parents parce qu'ils comprennent ce qu'ils font à l'école, même si ce n'est que la partie visible de l'iceberg, mais c'est vraiment important. Et ce n'est que ce n'est entre guillemets que de la révision. Rien n'est nouveau dans ce que les enfants ont à faire en devoir le soir. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait en classe, qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont lu, qu'ils ont appris. Donc, ils sont très fiers de montrer à leurs parents qu'ils savent faire. Et je pense que c'est vraiment très important pour les enfants que les parents prennent 5 minutes à observer cette activité, cette action, cette fierté de leur enfant. Ça fait vraiment ça soude un lien.
Donc s'intéresser aux devoirs de son enfant, c'est voilà, apprendre, savoir ce qu'il fait à l'école, et c'est aussi une forme d'engagement
Exactement.
Du parent dans la vie scolaire de son enfant.
D'intérêt. L'enfant apprend, surtout l'enfant en bas âge, mais même jusqu'en CM2, apprend bien plus facilement quand il a l'impression que ça sert à quelque chose et que ça fait plaisir à quelqu'un. Et en l'occurrence, jusqu'à très tardivement, c'est aux parents que ça fait plaisir, principalement. Et à la maîtresse, peut-être accessoirement, mais surtout aux parents. Et du coup, ça, c'est important pour eux.
Mais vous pensez que c'est... Parce que là, du coup, ça m'amène cette idée, en vous écoutant, que l'enfant, du coup, apprendrait à travailler, non pas pour lui, mais du coup, pour faire plaisir à son parent. Alors, je caricature, mais...
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pas pour faire plaisir à son parent d'avoir réussi un exercice, mais pour avoir un sentiment que son parent est fier de lui. Et ça, et du coup, cet échange autour des devoirs, autour du livret scolaire qui arrive 2 ou 3 fois par an, autour des cahiers qui sont rapportés à la maison une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 15 jours, c'est un moment hyper important pour l'enfant parce qu'on observe ce qui a été fait, on observe les progrès, on observe les capacités ou les compétences des enfants. Et ils sont hyper fiers de montrer qu'ils grandissent et qu'ils arrivent à faire plein de choses.
L'intérêt que les parents vont mettre dans les devoirs ou ce qui se passe dans la lecture d'un cahier, pour eux, c'est aussi reconnaître de la valeur de ce qui se passe à l'école. Alors, moi, je peux vous dire qu'en petite section, ils ont déjà des devoirs. D'accord ? Parce que moi, tous les vendredis, il y a un cahier qui part à la maison avec des traces de choses qu'on a vues pendant la semaine, qu'on a revu. Et normalement, ils sont censés aller le raconter à leurs parents. C'est comme ça que je ruse pour qu'ils racontent des choses. Et en fait, c'est de quelque part, on pourrait dire que c'est déjà des devoirs. Et l'intérêt que le parent va donner à ça, c'est énormément important pour la suite. Parce que c'est comme ça qu'il se valorise, l'enfant. Et moi, je dis, les devoirs, ça sert à ça.
Et qu'il comprend ce qu'il fait à l'école.
Oui.
À quoi sert l'école ? c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ils ont pas forcément l'impression d'apprendre quelque chose. Ils ont l'impression de partager du temps, de partager des activités, pas forcément d'apprendre quelque chose,
oui,
parce
en
que c'est fluide.
On peut entendre certains enfants dire « je fais que jouer à l'école ». Voilà. Mais le jeu est évidemment de l'apprentissage.
Ou alors aujourd'hui j'ai pas joué. Ça aussi c'est souvent. Aujourd'hui, maîtresse, on n'a pas joué.
Oui, donc là, vous dites bien quand même l'importance voilà, de s'intéresser, de s'investir, voilà, de s'engager en essayant, vous nous le disiez tout à l'heure, voilà, de prendre du recul par rapport à ce que soi-même on a pu vivre à l'école et notamment de difficile pour pouvoir véhiculer aussi une image positive qui va aider.
Si j'ai même quelque chose à rajouter, que ce soit à l'entrée en petite section ou à l'entrée en CP, je dis toujours à parents, surtout ne versez pas de petites larmes. Surtout si vous avez besoin de verser votre petite larme parce que l'émotion est trop forte, c'est après. Je vous offre les mouchoirs, je vous console si vous voulez. Mais c'est hyper important pour l'enfant parce qu'un enfant qui arrive dans un lieu relativement inconnu, petite section, première année de maternelle, CP, première année d'élémentaire, nouveau lieu, et qui voit son parent triste ou stressé ou versant sa petite larme, se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Où est-ce que je vais ? Où est-ce qu'on me dépose ? Mais c'est quoi le danger ? »
Qu'est-ce qui fait souffrir ma maman ?
Et qu'est-ce qui fait souffrir ma maman ? Et c'est là, du
ça
coup, que c'est
normal,
compliqué pour l'enfant, pour sa journée, et même pour les quelques journées à suivre.
Mais bon, c'est vrai que, vrai que ça arrive, hein, quand même, que les mamans pleurent.
C'est humain.
Moi, j'essaye vraiment de leur donner un petit... le mot qu'il faut pour qu'elles repartent. Qu'elles repartent
reboostées.
Mais des fois, c'est difficile. Hein. Mm-hmm. Les premiers jours, des fois, c'est...
Quels seraient vos conseils pour Estelle, les parents, pour le premier jour voilà, et les premiers jours, parce qu'il faut quand même un certain temps afin de trouver des repères et des habitudes pour que cette séparation se passe au mieux.
Alors... Bon, de toute façon, déjà, à mon avis, l'enseignant va vous donner une feuille, justement, en expliquant comment ça doit se passer, la séparation. Il va vous expliquer, vous rentrez avec votre enfant, vous lui parlez, et à un moment donné, il va falloir lui dire « je vais m'en aller ». Donc, évidemment, quand on lui dit « je vais m'en aller », on se dit « au revoir », mais on essaye de ne pas se dire « au revoir » 10 fois. Parce que sinon... c'est insupportable pour lui. Donc voilà, il va falloir rentrer, lui dire... Tout ça, c'est préparé déjà avant, mais au moment où vous arrivez à l'école, vous faites quelque chose avec lui, voilà, vous essayez de faire en sorte qu'il se sente en confiance. Et à un moment donné, il faut partir. Et il faut le lâcher. Et là, on lui dit, on le verbalise, on le laisse à l'adulte, soit à la SEM, soit à la maîtresse. Elle est évidemment à la rentrée, elle est un petit peu surchargée de demandes, mais en tout cas, c'est toujours possible de lui demander quelque chose. Et à ce moment-là, on y va. On lui dit évidemment qu'on viendra le rechercher, parce qu'en fait, je vous dis, c'est ça. Hein, c'est à quel moment je vais repartir chez moi. Ça, c'est très très angoissant pour eux.
Oui, là, vous nous dites bien l'importance de dire qu'on va partir.
Et le faire
vraiment sans aller-retour.
C'est
ça le plus dur pour
sans aller-retour.
Vraiment.
Souvent, des mamans qui ont du mal à lâcher, donc elles ont besoin des allers-retours. C'est pas mal, hein, elles en ont aussi besoin. Elles ont besoin de dire 3 fois au revoir, parce que c'est long une journée sans son enfant. Moi, je comprends complètement, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout.
Finalement, ce moment de la séparation, il faut pas qu'il soit trop long. Plus on va faire durer, plus ça va être difficile.
Voilà. Oui. Et c'est vrai que la pandémie a fait que les parents rentrent moins. Et c'est vrai que,
ça a écourté,
hélas,
ces temps-là.
Ça a permis de voir qu'en fait, les enfants pleurent beaucoup moins au départ. Parce que ça va tellement vite, la séparation, comme vous êtes en train de le dire, qu'en fait... au bout de quelques jours, ça y est, c'est parti. Ils sont dans un autre, d'autres habitudes et ils se séparent très très bien de leurs parents.
Oui, parce que l'inquiétude, c'est de voir son enfant pleurer. Mmh. Et puis le parent, il imagine que son enfant va pleurer toute la journée.
Évidemment.
Et puis quand on voit tous les enfants en même temps qui pleurent, voilà, une espèce d'effet d'engrenage. donc on se dit que ça va être comme ça toute la journée. C'est assez angoissant, en tout cas, en tant que parent.
C'est très angoissant. Et c'est angoissant aussi pour la maîtresse.
Pardon.
Parce que les enfants qui pleurent, ça génère du stress. Et un pleur entraîne un autre pleur. Et c'est un effet en cascade. Et il ne faut pas vouloir ça. Enfin, je veux dire, justement, il faut faire tout pour que ça se passe autrement. Donc, il faut vraiment aider l'enseignant pendant les premiers jours pour que ça ne se passe pas comme ça.
Mais est-ce que les enfants pleurent toute la journée ?
Non. C'est ce que j'ai dit. Mais.
Dans les faits, une fois que vous avez tourné les talons, la porte est fermée, ça s'arrête dans les 2 minutes.
Jamais. Et si vraiment un enfant pleure plus d'une heure, on va dire, plus d'une heure, là... Je vais échanger avec les parents tout de suite, dès le premier jour. Où je vais demander un allègement du temps scolaire, où je vais demander quelque chose. Mais en tout cas, une adaptation. Mais jamais, ça n'arrive qu'un enfant pleure toute la journée. Et si ça arrive, on intervient immédiatement. On ne laisse pas en souffrance comme ça.
Il y a des petits aussi qui vont pleurer au moment où le parent va venir le chercher le soir. En tout cas, une maman qui m'a parlé de ça l'autre jour et qui me disait à quel point ça avait été difficile pour elle de récupérer son enfant en pleurs, qu'elle avait senti qu'il se déchargeait, que la journée aussi avait été très intense, ça a duré quelques jours et puis ça s'est arrêté. Mais ça l'a inquiété de se dire je l'ai quitté en pleurs, je le retrouve en pleurs, il a peut-être vraiment pleuré toute la journée.
C'est vrai que c'est dur, mais moi aussi je pense que pour un enfant de 3-4 ans, toute la journée à l'école, le rythme qu'on demande aux enfants de 3-4 ans, c'est quand même beaucoup de boulot, et souvent ils prennent sur eux. Et peut-être que quand il a vu sa maman, il a eu besoin de se lâcher pendant quelques jours. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Ça peut arriver. C'est très rare. Je vous avoue que je ne crois pas que ça me soit arrivé. Mais ça peut arriver. Et faut pas s'inquiéter si ça dure que 2-3 jours. Ce n'est pas grave. Après, si ça dure longtemps, bien sûr, on va...
Et puis, comme tu disais, je pense qu'il y a aussi une forme de soulagement de savoir que finalement, on vient me chercher et en tant qu'enfant et qu'on ne me laisse pas là
pour qu'il se lâche.
Pour le reste de la journée et le reste de la nuit, quoi.
Un pleur en soi, c'est pas non plus très grave. Il faut pas dramatiser le pleur en soi. C'est un petit peu d'émotion qui part. Ça arrive même aux grands. Faut faire avec.
Là, dans cette question de décharge, en tout cas, dans ce que vous disiez, le fait que la journée, on leur demande beaucoup, que c'est aussi l'acquisition d'un nouveau rythme, de se concentrer, de faire de nouvelles activités. Vous parliez de vos questions par rapport au sommeil, que ça vient perturber parfois à la maison, un rythme déjà établi, que ce soit au niveau du sommeil ou justement des comportements de décharge à la maison. Est-ce que c'est des choses aussi que les parents vous rapportent ?
Énormément. Ça les perturbe beaucoup. À la maison, ils changent. Souvent, ils disent « Mais il est terrible à la maison, Nathalie, depuis qu'il va à l'école. » c'est vrai que je pense qu'ils ont besoin, effectivement, comme toute la journée, ils sont quand même avec des règles, on leur impose un rythme, ils sont nombreux. Et je pense que des fois, à la maison, certains se lâchent un peu. Et pendant quelques mois, on a des fois des retours des parents qui peuvent être... c'est pas facile à la maison. Mais c'est de l'adaptation. Mais c'est vrai que ça perturbe. L'école perturbe beaucoup. C'est un changement tellement important dans le rythme, dans les apprentissages. Par contre, tous les parents sont là, sont toujours éblouis par les apprentissages. La rapidité des apprentissages. Comment leur enfant est devenu grand. D'un coup, presque. Voilà.
Pour le jour J, alors on parlait là de ce temps de séparation, j'avais entendu dire il y a aussi le fait d'emmener son enfant en marchant, le fait de pas le porter.
On en avait
échangé en préparant l'épisode. Est-ce que c'est aussi un conseil que vous donneriez ? Parce que se séparer quand on est dans les bras, c'est plus dur que quand on se donne la main.
Bien sûr. Alors c'est vrai que là, on est au mois de mars. Alors je pense plus à ça, mais quand je les vois arriver accrochés comme des petits koalas à leur papa, à leur maman, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que quand on arrive à la rentrée, on essaye d'emmener son enfant par la main en marchant. Et c'est très important que pendant au moins quelques jours, ça se passe comme ça. Bien sûr qu'après, quand tout va bien, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est vrai que si vous arrivez déjà complètement fusionnel, c'est très compliqué de séparer de son enfant des deux côtés.
En maternelle, il y a aussi la question du doudou. Est-ce que l'enfant amène son doudou avec lui, voilà. Est-ce que le doudou a une place en petite section?
Ah oui, 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 le doudou est accepté, de toute façon, la tétine aussi. Alors, bon, en raison de la pandémie, moi, cette année, j'ai opté pour un doudou de l'école qui reste sur le lit pour pas qu'il y ait d'échange entre eux, de boîte. Puis bon, pour la propreté, l'hygiène, c'était mieux. Mais ça se passe très bien, ils ont le doudou qui est sur leur lit, et puis pareil, pour les tétines, c'est accepté. Après, moi je fais en sorte que bon, les premiers jours, on a le droit de prendre son doudou quand on veut, et au bout de quelques jours, il est là pour la sieste. Voilà. Mmh. Et ça se passe très bien, ce genre de choses, ça
oui, petit à petit, progressivement, le doudou va sortir de la classe assez naturellement.
Ah oui, complètement. Alors après, ils en ont besoin à la maison longtemps. C'est normal, ça, je veux dire. Mais en tout cas, à l'école, c'est souvent dans le lit. Dans le lit, puis évidemment, si on a un petit chagrin, on va aller chercher le doudou. Et ça va tout de suite aller mieux.
Est-ce que vous auriez, Nathalie, d'autres conseils pour le jour J? Alors, je pensais au fait de célébrer quand même ce passage. Est-ce que, symboliquement, de marquer quelque chose, est-ce que c'est important?
Alors, moi, je pense qu'il faut en parler beaucoup, peut-être pas non plus trop le sacraliser, parce que ça pourrait quand même gérer des angoisses. Donc, en parler vraiment régulièrement, et plus le jour J arrive, et plus on se détend, on en rigole. On prépare un petit peu ce qu'on va dire à la maîtresse quand on arrive, peut-être se présenter. Ça pourrait être quelque chose. Généralement, ils arrivent devant moi, ils n'ont plus de langue, parce qu'ils sont tellement impressionnés que c'est terminé, mais c'est pas grave, on en a parlé, raconter des histoires, et surtout, moi je pense, surtout, le plus important, c'est se détendre et faire confiance. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner.
Tout est transposable sur l'élémentaire, en fait. Mmh. C'est exactement le même principe, avec 3 ans de plus, avec peut-être un discours des livres qui sont un peu différents, mais un discours différent, je veux dire, plus mature. Bon, tu connais l'école, tu sais ce que tu vas y faire. Bon, là, cette année, tu vas apprendre à lire, à écrire. Mais c'est exactement la même chose qui est transposable de la petite section au CP. Mmh. Après, pour la moyenne section, grande section, et CE1, CE2, CM1, CM2, les enfants sont déjà dans le lieu, c'est déjà un lieu qui leur appartient, où ils ont l'habitude d'être, qu'ils connaissent, c'est un peu une deuxième maison, donc le stress de rentrée est différent, mais les transitions importantes de ma petite section et de CP sont les mêmes. Sont les mêmes, c'est des transitions importantes.
Pour préparer la rentrée du CE1 au CM2, il y a certains parents qui se demandent, est-ce qu'il faut faire des devoirs de vacances, les fameux cahiers de vacances?
Les fameux. Alors, je vais me faire lâcher peut-être par mes collègues, mais moi, je pense que non. Je pense qu'il est bien plus important de partager des moments. Alors, tout est bon aux mathématiques et aux français, entre guillemets. C'est-à-dire, on invite les cousins à table, il nous faut des assiettes, des fourchettes, combien il en faut, combien il en manque, pour les mathématiques, par exemple. Pour tout ce qui est lecture, apprentissage de tout ce qu'on appelle la production d'écrit, c'est-à-dire raconter des histoires, savoir écrire, je pense qu'il est le plus intéressant pour un enfant que ce soit lié à son quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une pièce de théâtre, on va faire un petit texte à côté en disant pourquoi j'ai aimé cette pièce de théâtre, coller le ticket dans un cahier, mettre à côté pourquoi on a aimé, faire un dessin, pourquoi pas, quand on est plus jeune. C'est bien plus utile, bien plus concret, bien plus porteur pour un enfant que de faire les sempiternels cahiers de vacances, je pense que certains
généralement les enfants généralement les enfants trichent parce que les réponses sont à la fin.
Exactement. Et puis c'est un côté, alors on peut effectivement, c'est un côté obligatoire tous les matins pendant une heure tu fais ton cahier. Ça peut être exactement la même chose avec le quotidien de l'enfant. Tout simplement. Alors, suivant son âge, CP, CE1, ça peut être des choses très simples. J'écris ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé, un cahier de vacances individuel que l'on produit nous-mêmes. Et
c'est bien plus utile pour lui, parce qu'apprendre à lire et écrire, c'est ce qui est le plus compliqué, compter aussi, mais je veux dire, c'est bien plus long et compliqué de savoir écrire une phrase sans faute d'orthographe et comprendre pourquoi on a fait les fautes d'orthographe que de faire un énième exercice de conjugaison que de toute façon on va reprendre à la rentrée avec la maîtresse. Bon, ça c'est plutôt, c'est assez personnel, mais je pense qu'on est quand même une bonne partie d'enseignants à penser que voilà, il vaut mieux faire quelque chose qui plaît aux enfants que de se donner bonne conscience à acheter un cahier de vacances dont on va faire deux pages en regardant les réponses à la fin. Et on va ne faire que les sciences parce qu'on aime beaucoup les sciences, ou que l'anglais parce qu'on aime beaucoup l'anglais. Que voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, en tout cas pour l'élémentaire, lire, qui est toujours la même idée, lire des livres que l'on aime, lire même des BD. Enfin, la BD n'est pas interdite, le manga n'est pas interdit, tout ce qui est lecture courte n'est pas interdit du moment qu'on lise. Peu importe. Ça, c'est plus utile que le fameux cahier de vacances.
Ce qui est utile, c'est vraiment d'être proche de son enfant, d'échanger avec lui.
Il vaut mieux faire un jeu de société quelconque. Voilà,
jouer avec vos enfants, raconter des histoires, les faire verbaliser sur ce qu'on a fait, pas forcément écrire si c'est pas leur truc d'écrire. Alors, les faire verbaliser, leur dire ça t'a plu ce qu'on a fait aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu dans la journée. Voilà, ça suffit, c'est être très simple, mais être proche.
Fanny, est-ce que le fait aussi de faire participer les enfants à l'achat des fournitures scolaires, qu'ils puissent choisir leur cartable, leur trousse, leur stylo, est-ce que c'est quelque chose qui peut être important ?
C'est, me semble-t-il, très important pour l'entrée en CP, parce que le cartable, c'est vraiment un objet de transition entre la maternelle et l'élémentaire. Très important, me semble-t-il, de leur laisser choisir leur cartable. Alors, on est en gardant évidemment quelques règles de bien-être, c'est-à-dire éviter les cartables à roulettes, par exemple, qui sont très très lourds, même vides. Privilégier des bretelles larges sur l'épaule qui permettent de bien englober l'épaule. Mais après, le dessin, la configuration, ça, à mon sens, il faut que ce soit vraiment un choix des enfants. Après, sur le reste des fournitures scolaires, peut-être laisser choisir un ou deux éléments. Mais l'idée n'est pas tellement d'avoir beaucoup de choses choisies, parce qu'en général, on connaît nos enfants, on sait très bien que quand ils choisissent leur fourniture scolaire, ça va être le super-héros du moment ou la princesse de l'instant. Mais en tout cas, ils vont prendre des choses qui vont leur plaire, mais qui va aussi beaucoup détourner leur attention au quotidien dans le travail de classe. Qu'ils choisissent deux éléments, le cartable, la trousse par exemple, ou le cahier de texte, enfin, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais il vaut mieux, avec lui, acheter des fournitures, mais il vaut mieux tabler sur des choses robustes, avec peu de fioritures, pour éviter le détournement d'attention du quotidien. C'est tellement facile en CP de jouer avec le petit, la gomme qui est rose, ou plutôt que de faire un travail demandé par la maîtresse qui peut être exigeant en énergie.
Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour les parents, alors? Et Estelle, vous aviez cette question du fait que le papa de votre fille sera présent. Quelles pourraient être là quelques billes pour Estelle dans cette situation qui est particulière? Oui. Mais
moi, j'ai vécu ça.
Moi aussi, tous les deux, c'est pour ça.
C'est peut-être mieux de ne pas être l'enseignant de son enfant. Ça, c'est ma position, mais je veux dire, pourquoi pas? Parce que je trouve que c'est bien d'avoir un maître ou une maîtresse et une maman ou un papa. Ça multiplie en fait le relationnel.
Ça sépare les mondes.
Ça sépare les mondes, mais c'est surtout que c'est riche. La relation à l'enseignant est riche et la relation aux parents est riche. Donc pour moi, c'est ma position. Moi, j'ai préféré ne pas avoir mon enfant dans ma classe. Alors par contre, il était dans mon école et. Bon, au début, il faut un petit peu ruser, effectivement, les premiers jours pour que la personne qui l'accompagne soit différente, soit pas le papa, effectivement. Mais en fait, très, très vite, l'enfant s'habitue. Ils s'adaptent. Les enfants s'adaptent.
Puis ils comprennent très bien. Ils font la part des choses sur les deux mondes. Mmh. Comme toi, j'ai eu mes deux enfants à l'école et c'était très drôle parce que j'avais mon garçon qui, lui, dès qu'il me voyait dans les couloirs de l'école, tournait la tête. Genre, je ne la connais pas. Et au contraire, ma fille qui, à chaque fois qu'elle me voyait, me disait « Maman !» Voilà, mais bon. Et je pense aussi dans la gestion du quotidien de l'enfant, surtout quand il y a un conflit avec un camarade, il faut surtout pas intervenir en tant que parent. Enfin, quand on est dans l'école et qu'on est enseignant, à ce moment-là, il faut déléguer à un autre enseignant parce que c'est compliqué pour son propre enfant de voir qu'il a pris parti ou pas. Mais en tout cas, il a ce sentiment-là qu'il est pris parti, que le parent est pris parti pour un autre enfant. Donc là, ça génère de la loyauté, de l'amour, c'est tout ce qui va avec. Donc, à mon sens, il est important que le parent enseignant ne gère pas les conflits du cours de récréation. Quand je dis conflit, c'est je devais passer le premier sur le toboggan, il m'a doublé, enfin ce qu'on voit au square, quoi, ou dans la cour de l'école. Mais voilà, c'est important, je pense, que vraiment que le parent ne gère pas ce genre de situation pour éviter justement à l'enfant ce conflit de loyauté et ce sentiment de il a pris la défense de l'autre alors que c'est juste quelque chose de voilà, vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes torts et on s'arrête là, quoi.
Ce sera quand même.
Mais ce sera pas évident.
Voilà, faut quand même reconnaître que c'est une charge en plus, pour l'enfant. Il va falloir qu'il gère ça aussi avec le reste. Donc, il faut pas négliger non plus. Il faut bien le préparer. Faut le préparer un petit peu, oui, parce que ça va être aussi pour vous un petit peu de stress en plus.
Que peuvent faire les parents quand la relation avec l'enseignant est difficile?
Alors, tu réponds,
est-ce que le directeur ou la directrice d'établissement, par exemple, est-ce que voilà, c'est quelqu'un auquel les parents peuvent s'adresser?
Moi, je pense.
Tout à fait, effectivement. Souvent, le directeur ou la directrice de l'école, c'est le médiateur, entre guillemets. Le médiateur sur les moments d'entrée, de sortie de classe, les moments de difficulté, les moments de dialogue rompu ou les moments d'interrogation et d'inquiétude de part et d'autre. Parce que parfois, les enseignants ont des inquiétudes que les parents ont du mal à entendre. Et inversement, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, le fait d'avoir une tierce personne, souvent le directeur ou la directrice, permet d'avoir un dialogue, d'avoir un médiateur et d'avoir un dialogue apaisé. Alors c'est vrai qu'au départ, quand il y a un conflit, ce qui arrive quand même pas souvent, faut pas non plus exagérer, mais quand il peut y avoir une espèce de trio, mais avec intermédiaire le directeur ou la directrice, c'est-à-dire que on s'adresse, chaque partie s'adresse au directeur ou à la directrice, et petit à petit, je pense que c'est aussi l'intelligence des écoles et du vivre en collectivité, on arrive à rétablir un moment de communication à trois et ça se passe bien, ça rentre dans les clous. On peut pas empêcher les moments de tension de part et d'autre pour plein de raisons. On est tous humains, voilà, on est tous humains, on a tous à un moment donné peut-être un sommeil difficile, un réveil compliqué, que ce soit les parents, les enfants, les enseignants. L'important, et je pense que dans la majorité des cas, parce que les parents se mettent une pression en disant je laisse mon enfant à cette personne toute la journée, et en même temps les enseignants sont des personnes qui se disent ils nous confient leurs enfants toute la journée, donc on est majoritairement dans 99,9% des cas dans des situations d'intérêts généraux et d'intérêts communs, faire avancer, faire grandir l'enfant. Donc même s'il peut y avoir par moments des difficultés, des petits moments de friction, ça s'apaise assez rapidement, de par l'intervention de l'enseignant, du directeur ou de la directrice, ou simplement parce qu'on dit, bon, allez, aujourd'hui, on ne gère pas, on verra ça demain, et puis tout le monde redescend et le dialogue repart facilement, parce que tout le monde est intelligent et tout le monde voit l'intérêt de l'enfant et son bien-être.
Moi, en tant qu'enseignante, s'il y a quelque chose qui ne passe pas avec les parents, un désaccord, où j'ai l'impression qu'ils ne m'entendent pas dans ma requête, ça arrive souvent. Ils n'entendent pas parce qu'ils restent sur leur position. Moi, j'ai une requête différente et j'aimerais qu'ils entendent. Donc, tout de suite, je vais voir la directrice et je lui dis, on va recevoir ses parents ensemble. Voilà. Et généralement, ça débloque. Complètement, ça marche très bien. Donc moi, je fais toujours comme ça, et mes collègues aussi. Et parce que c'est vrai que des fois, ça aide, en fait, d'avoir une tierce personne. Mais c'est vraiment une solution. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir dans une école, quand même, quelqu'un qui est directeur, qui n'a pas de poste, qui peut justement aider à tout ce relationnel. C'est très important.
Comme vous nous l'avez bien dit, la rentrée scolaire, c'est une étape pour tous, petits et grands. S'y préparer, anticiper peut permettre à tous de la vivre le plus tranquillement possible. Et surtout, comme vous nous l'avez bien dit aussi, plus le parent sera serein, plus son enfant le sera également. Donc avant de préparer les enfants, il est essentiel de se préparer soi en tant que parent, être rassuré pour rassurer son enfant. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Estelle, vous avez lu Tchoupi. Alors Tchoupi, petit loup, petit ours brun, ils rentrent tous à la maternelle. Est-ce que vous auriez d'autres livres pour l'entrée à l'école ou l'entrée au CP à nous recommander?
Je pense à l'école de Léon parce que il l'adore et c'est un livre vraiment c'est un des meilleurs.
On a pas mal pour le CP en tout cas de petits livres autour de la maîtresse. Moi j'aime la maîtresse déteste. Quelle est la vie de la maîtresse en dehors de l'école? Parce que dans les préjugés de certains enfants, la maîtresse est à l'école, dort à l'école, mange à l'école, vit à l'école, enfin fait tout à l'école. Et ont du mal à concevoir que c'est un être comme un autre qui a une vie comme eux. Quoi. Donc le fait de rendre humain cette personne, ça peut aussi pour les CP faire un petit peu descendre la pression. Mais tout ce qui est soit je rends humain les adultes qui vont m'accueillir, ou soit quelque chose de l'ordre de mes émotions comptent à l'école, même si c'est pas les mêmes que les camarades, du genre moi j'adore, la maîtresse déteste. Ce sont des lectures de CP un peu détournées, j'ai envie de dire.
Mais moi, je recommanderais un autre livre qui s'appelle Maman à l'école, où là, c'est l'histoire d'une maman qui reste à l'école. Et puis, à la fin, la petite fille a vraiment envie que sa maman s'en aille, parce que l'école, c'est quand même beaucoup mieux sans les mamans. Et puis, un texte qui s'appelle La rentrée, séparation et confiance, sur le blog écolepetitesections.com. Voilà, qui est un texte pour les parents, pour justement préparer cette séparation et développer la confiance en soi, en son enfant et en l'école.
Et moi, je voudrais dire une phrase d'un enfant. Nathalie, pourquoi les maîtresses, ça ne travaille pas? C'est ça.
Un très grand merci, Estelle, d'être venue partager avec nous vos questions, vos interrogations. Bonne rentrée pour votre fille.
Merci.
Et
merci.
Pour vous, votre première rentrée de maman. Merci beaucoup, Nathalie et Fanny, d'être venues partager avec nous tous vos éclairages, vos conseils, malgré votre droit de réserve. Merci,
merci
beaucoup.
Merci à vous.
Merci, Mathilde. Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.